Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité des laboratoires de Muse, Montpellier, université d'excellence. Il y a 12 000 ans, entre la Méditerranée et l'Euphrate, s'écrivaient les premières lignes d'une longue, très longue histoire, celle de la domestication du blé par l'homme. À partir de là, l'histoire de l'humanité et celle du blé resteront inextricablement liées, les mélanges de variétés se faisant au gré des échanges entre civilisations. Le Moyen-Âge voit se développer de nouvelles méthodes de culture, on agrandit les champs et au XVIe siècle, des régions comme la Beauce, la Brie ou la Haute-Auvergne sont déjà spécialisées dans la production de céréales. Il faut attendre néanmoins le XIXe siècle pour réellement parler de sélection avec les premiers travaux généalogiques sur le blé réalisés par Louis de Villemorin qui donneront naissance aux premières variétés de blé modernes, les variétés Villemorin. Bah oui, on ne peut pas être créatif sur tous les plans. C'est le cas de le dire, merci, on a remarqué ma blague. Le XXe siècle et l'après-guerre marqueront vraiment un tournant dans la culture de cette céréale composée de plus de 30 000 gènes et de 42 chromosomes. Plus que jamais, l'objectif s'inscrit en termes de rendement. En seulement 50 ans, la France triple son rendement en imposant les cultures monovariétales. Pourtant, depuis quelques années, l'agroécologie a permis de nuancer l'intérêt de ces cultures monovariétales. Notre invitée du jour est chercheuse à l'Institut AGAP pour amélioration génétique et adaptation des plantes tropicales et méditerranéennes. Elle nous présente ses travaux sur les performances des mélanges variétaux dans la culture du blé. Son étude a été publiée dans la revue New Phytologist le 26 janvier dernier. Hélène Fréville, bonjour.
Bonjour.
Et vous pourrez tout à fait prendre le temps de corriger les erreurs que j'ai dû faire dans mon lancement. Elle aussi cultive les épis, même s'ils ne sont pas blonds, à mes côtés pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Fallait trouver.
C'est pas facile.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons à l'IUT de Montpellier 7 sur l'atelier de technologie alimentaire. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56. 57.
Alors pour commencer, Hélène Fréville, donc on débute toujours cette interview par une question qui pose un petit peu les bases. Et l'agroécologie, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ?
D'accord, donc ce n'est pas évident pour aussi nous chercheurs, puisqu'il y a plusieurs définitions à ce terme. Je vais en rester à la définition scientifique qui justifie les travaux que l'on mène. Donc l'agroécologie, c'est de mobiliser les interactions qui se passent de façon naturelle entre les organismes, de façon, pour nous en agriculture, à développer une agriculture plus durable, qui soit moins dépendante des intrants, donc que ce soit fertilisation avec des fertilisants de synthèse ou des pesticides par exemple. Donc l'idée est de mobiliser la diversité, soit d'espèces, soit de variétés, pour se passer d'une partie des intrants qui ont accompagné la révolution verte après la Seconde Guerre mondiale et qui ont fait qu'aujourd'hui, en sélection variétale, on a surtout développé des variétés qu'on appelle élites, qui sont très performantes, qui produisent beaucoup, mais dans des milieux très manipulés par l'homme. L'homme contrôle l'environnement au maximum. Il ne peut pas contrôler le climat, mais au moins, dans ce qu'il donne comme ressource à la plante, il y a une artificialisation de l'environnement qui fait qu'on minimise les risques d'avoir des différences de rendement entre années selon les conditions climatiques.
Alors, pour revenir à votre étude plus précisément, vous avez testé des mélanges variétaux de blé. Pourquoi est-ce que c'est le blé que vous avez choisi ?
Alors, pour faire le lien avec l'introduction, nous, on travaille sur le blé dur. C'est une espèce encore un petit peu différente du blé tendre dont vous avez parlé. Le blé tendre, c'est une des céréales majeures qu'on utilise et qui est très cultivée en France, qui sert à la production de farine. Donc, la particularité du blé tendre, comme son nom l'indique, c'est qu'elle a des grains qui sont faciles à casser, à moudre. Notre espèce d'intérêt dans mon unité, c'est le blé dur, qui a des grains durs, et qu'on utilise pour fabriquer la semoule et les pâtes. En termes de surface de culture, en France, cette espèce est beaucoup moins développée. Elle est notamment cultivée sur tout le pourtour méditerranéen, notamment en Afrique du Nord. Donc pour nous, le blé dur, c'est une espèce modèle dont la sortie de nos recherches peut s'appliquer à un grand nombre d'espèces. C'est l'idée de cultiver des mélanges, c'est de mieux gérer les bioagresseurs des cultures et puis de réduire la fertilisation, donc en ce qui concerne le blé dur, dans le cycle de vie de la plante, pour arriver à produire une bonne qualité de grain qui est nécessaire à la transformation par l'homme. On est obligé d'apporter de l'azote plusieurs fois dans le cycle de vie. Et cet azote qu'on apporte, en fait, il est en partie mobilisé par la plante, mais également, il repart dans l'environnement parce que la plante n'a pas réussi à mobiliser cet azote. Et donc, il y a un coût pour l'environnement qui est important. Donc, notre idée, c'est d'arriver à développer, en mobilisant cette diversité de variétés, des modes de culture qui sont moins dépendants de la fertilisation et des pesticides, et donc réduire le coût environnemental et économique aussi des cultures.
Alors, je vous ai vu juste tiquer pendant mon lancement, donc on va y revenir maintenant. Je me suis trompée sur le nombre de chromosomes, c'est ça ?
Non, non. Le blé dur a une histoire qui lui est propre. Le blé tendre est arrivé ensuite par hybridation entre le blé dur et une autre espèce. Et du coup, le blé dur, il a que, entre parenthèses, 28 chromosomes. Et donc, il a un génome un peu particulier. C'est ce qu'on appelle une espèce allo-tétraploïne, c'est-à-dire que son génome est constitué de deux génomes indépendants qu'on appelle A et B dans notre jargon. Chaque génome est issu d'une espèce particulière avec une hybridation entre deux espèces qui a donné ce blé dur qu'on utilise aujourd'hui.
Très bien. Alors, donc, on va parler. Donc, vous avez déjà lancé le sujet. On va parler de variétés et notamment donc de monovariétés. Je l'ai dit en introduction. C'est la monovariété qui s'est imposée jusque-là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On comprend plus ou moins, mais.
Alors, en fait, une variété qu'on appelle élite aujourd'hui, qui est mise sur le marché, est une plante qui est homogène au niveau génétique sur l'ensemble de son génome. C'est-à-dire que elle n'a pas de diversité. Pour chaque région du génome qu'on considère, elle a exactement la même information génétique sur l'ensemble de ces régions-là. La notion de variété peut prendre des acceptions différentes. Donc, chez certaines espèces, les variétés ont encore de la diversité génétique intraplante. Chez le blé dur, aujourd'hui, ce qu'on cultive, c'est des champs dans lesquels on a un seul génotype qui est complètement fixé sur l'ensemble de son génome, c'est-à-dire qu'on n'a pas de diversité intraplante pour chaque région du génome que l'on considère. Et donc, dans le champ, vous allez trouver des petits clones sur des dizaines de milliers de
D'accord,
plantes.
D'accord, donc c'est ça,
donc
c'est des petits clones.
Donc, il n'y a pas du tout de diversité génétique dans la parcelle, que ce soit intraplante ou entreplante, puisque les plantes sont toutes identiques au niveau génétique.
Alors justement, vous parlez pas de monovariété, mais de mélange variétaux dans votre étude. Et que sont les avantages des mélanges de variétés par rapport à ces cultures monovariétales que vous décrivez comme plein de petits clones qu'on retrouverait dans un champ ?
Alors les avantages, on essaye de mieux les comprendre. C'est un objet de recherche en soi. La culture de la mobilisation de la diversité en agriculture, vous l'avez mentionné en introduction, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de l'homme. On a cultivé de la diversité de tout temps. Et par contre, après la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à développer des systèmes de culture dans lesquels on a perdu de la diversité, que ce soit en espèces qu'on cultive aujourd'hui ou en variétés, intra-espèces. Et donc, il y a le regain pour les mélanges variétaux. Je dirais que en agronomie, il a commencé dans les années 60 parce qu'on avait des gros problèmes de régulation des pathogènes. Et on s'est rendu compte, en fait, que si on mélangeait des variétés qui étaient différentes sur l'information génétique qu'elles portaient à ce qu'on appelle des gènes de résistance majeure à ces pathogènes, en fait, on arrivait à mieux contrôler ces bioagresseurs et donc à moins dépendre des pesticides. Même si on utilise des pesticides aujourd'hui, il faut savoir que la durée de vie d'une variété qu'on met sur le marché, qui est cultivée, est de l'ordre de 6 à 7 ans. Au bout de 6 à 7 ans, le pathogène a ce qu'on appelle contourné la résistance et on est donc obligé de mettre sur le marché des nouvelles variétés qui soient capables de résister aux pathogènes en question.
Et là, on dit ça pour le blé, parce que votre étude porte sur le blé, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut extrapoler à d'autres types de cultures ou à d'autres céréales ? C'est la même chose ?
Tout à fait. En fait, en France aujourd'hui, on s'intéresse au mélange essentiellement sur le blé tendre et le blé dur. On peut appliquer cela au colza également. Il n'y a pas de restriction. On peut même élargir le système à des systèmes de type multi-espèces. Donc ça peut être cultiver des céréales avec des légumineuses. Et encore plus loin dans les systèmes qu'on peut développer, c'est tout ce qui est basé sur l'agroforesterie, où là, on va utiliser des arbres en co-culture avec des céréales annuelles, par exemple, comme le blé.
Alors, vous avez travaillé dans cette étude sur 200 mélanges binaires, donc on imagine que c'est deux variétés, c'est ça ?
Exactement.
Donc, vous avez mesuré la productivité et la sensibilité à une maladie du blé en particulier, la septoriose. Donc, vous nous avez dit que ce n'était pas votre spécialité, mais justement, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot
Alors,
de cette maladie ?
La septoriose, c'est une maladie majeure qui est causée par un champignon, donc une maladie fongique, qui entraîne des nécroses des feuilles et qui va donc impacter fortement le rendement parce que la plante perd sa capacité photosynthétique. Et donc, dans cette étude, on a bénéficié d'un partenariat avec une autre unité sur Montpellier qui s'appelle FIM, pour Plant Health Institute of Montpellier, qui est basée à Baillargues, qui a de fortes compétences en pathologie. Et donc, c'est un peu l'intérêt des travaux qu'on développe, c'est d'arriver à faire de la multidisciplinarité pour réussir à agréger des compétences en génétique, qui est plutôt notre domaine dans AGAP et puis dans mon équipe en particulier, G2POP, et des compétences en pathologie, en agronomie, etc.
Alors justement, vous parlez de génétique, c'est ça qui est quand même totalement novateur dans vos travaux. Vous avez proposé une approche basée sur l'information génétique des composantes des mélanges de variétés. C'est-à-dire que vous avez analysé quoi exactement ?
Alors en fait, là, on s'intéresse à la composition en termes d'allèles de chaque variété.
Une allèle, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est ?
Alors en fait, c'est un allèle.
Un allèle.
donc ça va être les différentes versions de la séquence de base nucléique qu'on va trouver à un locus donné. Un locus étant un emplacement physique donné sur un chromosome. Et donc, pour revenir sur sur l'homme, parce qu'on connaît mieux, à chaque région de notre génome, on a un allèle qui est hérité de notre mère et un allèle qui est hérité de notre père. Ces deux allèles peuvent porter exactement la même information génétique parce qu'ils ont la même séquence nucléique, mais il se peut également qu'ils portent une information génétique différente. Et c'est à ce niveau-là qu'on a regardé, nous, sur le blé, dans quelle mesure avoir des allèles différents sur des régions génomiques qu'on ciblait, entraîne une meilleure performance des mélanges ou au contraire une moins bonne performance des mélanges.
Et ça, ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent ?
Alors, ça a été fait récemment, donc en 2020, sur Arabidopsis thaliana, qui est notre espèce fétiche en génétique végétale, mais ça n'avait jamais été fait sur des espèces d'intérêt agronomique.
Alors, on a dit que c'était très novateur, cette approche. Comment on s'y prenait avant pour savoir si un mélange de variétés allait être performant ou non ?
Alors, en fait, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait une approche génétique basée sur l'identité des allèles à des gènes de résistance majeure. Donc, ça a été développé depuis une cinquantaine d'années. Et puis après, une approche plus à l'aveugle, où on fait des essais-erreurs, où on essaye de voir comment, en mélangeant des variétés qui diffèrent sur certaines caractéristiques de type hauteur de plante, date de floraison, on arrive à obtenir une meilleure performance ou pas. Donc c'est l'idée de comprendre ce qui se passe en termes d'interaction entre plantes dans des mélanges, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses en agronomie ou même en écologie, dont sont tirées une partie des théories qu'on teste aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. On a constaté que dans certains cas, de mettre de la diversité, donc cultiver différentes variétés, fait que l'écosystème ou l'agrosystème produit plus et plus résistant aux maladies. Mais également, on a observé les patrons inverses, qui est que la diversité peut être néfaste pour les objectifs qu'on cherche à cibler. Et donc, en moyenne, dans la littérature, on montre effectivement que mélanger des variétés augmente le rendement, permet de mieux résister aux maladies, mais ça ne reste qu'une moyenne. Et autour de cette moyenne, en fait, on a des situations dans lesquelles mélanger n'est pas une bonne idée, ou au contraire, mélanger est une très bonne idée. Et ce que nous, on cherche à savoir dans nos projets de recherche, c'est quels sont les mécanismes qui sont impliqués, qui font que ça peut mieux marcher ou au contraire moins bien marcher, et du coup, comment mobiliser ces mécanismes pour prédire la performance des mélanges de variétés et du coup partir sur des choses qui marchent.
Vos résultats, ils sont un peu contre-intuitifs, donc vous y attendiez à ça ou pas ?
Pas du tout, en fait, c'est ce qu'on aime en recherche, c'est de tomber sur des choses qui nous interpellent. Et du coup, au niveau génomique, dans les deux études que j'ai citées sur Arabidopsis thaliana, ils ont trouvé un effet positif de la diversité, donc du fait d'avoir des allèles différents entre les plantes, sur la production de biomasse d'Arabidopsis. Donc, et ça, c'est ce qu'on avance comme mécanisme, hein, issu des théories de l'écologie, c'est mettre de la diversité, ça a plein d'effets bénéfiques, et on a des mécanismes pour expliquer pourquoi. Le fait de trouver que, sur cette région génomique, mettre de la diversité impacte négativement la performance des mélanges est vraiment un résultat intrigant. On a quelques hypothèses à mettre sur la table pour expliquer cela, et notamment dans cette région qu'on a identifiée, on a décrit, enfin ça c'est des collègues qui l'ont fait, hein, on a 49 gènes qui sont connus pour être impliqués dans certaines fonctions, et parmi ces 49 gènes, on a un gène qui produit une substance qu'on appelle allélopathique. Alors l'allélopathie, c'est le fait qu'une plante excrète dans le milieu extérieur des substances chimiques qui vont avoir un effet sur les plantes voisines. Cet effet, il a surtout été étudié sous forme d'impact négatif. Donc une plante excrète des substances chimiques qui vont faire mourir la voisine. Mais il y a aussi des cas d'effets positifs. Et en fait, dans notre étude, une des explications possibles serait que ce gène qui produit des substances allélopathiques fait que quand vous êtes avec une plante qui a le même allèle à ce locus, et bien en fait, vous êtes capable de lui résister puisque vous êtes vous-même producteur de cette substance et donc c'est une substance qui ne vous fait pas de mal. Mais si vous êtes en voisinage avec une plante qui a un autre allèle que vous, cette plante va excréter d'autres substances chimiques auxquelles vous n'êtes pas adapté. Et du coup, peut affecter votre performance. Le lien avec la maladie, on ne le comprend pas encore. Et donc, ça fait l'objet d'autres projets de recherche qu'on développe avec l'unité FIM en ce moment.
Et donc, en plus de ces résultats-là, qui sont peu intuitifs et novateurs, comme vous l'avez dit, vous avez aussi quand même montré et confirmé ce que montre la littérature agronomique, qui dit que les mélanges sont en moyenne plus productifs et moins malades que les cultures monovariétales. Pourtant, on en a parlé tout à l'heure, les mélanges ne représentent encore que 12% des surfaces cultivées. S'ils sont finalement plus performants, pourquoi est-ce qu'ils sont si peu représentés ?
Alors en fait, on a en cours un gros projet de recherche qui s'appelle MobiDiv, pour mobiliser la diversité, qui s'intéresse à ces questions-là, à la fois au niveau biologique, économique et social. Il faut savoir que depuis 60 ans, on est dans une agriculture qui repose sur de la monovariété. Comme tout changement de pratique, on a des verrous à lever, qui soient d'ordre économique ou social. Et puis on a, nous, en tant que biologistes, aussi à mieux comprendre comment choisir ces variétés de façon à ce qu'elles fonctionnent bien ensemble. Donc il y a aujourd'hui, de conseiller un agriculteur, c'est compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas les clés pour comprendre pourquoi dans certains cas ça marche bien et pourquoi dans d'autres ça ne marche pas. On l'a pour certains caractères, type résistance à des maladies sur des gènes de résistance majeure, comme je vous l'ai dit. Mais tout l'enjeu, là, c'est d'arriver à avoir des pluri-objectifs, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement cibler, mieux réguler les pathogènes, mieux réguler les adventices qui peuvent faire de la compétition aux cultures, produire un meilleur rendement. Il faut arriver à faire du multi-objectif. Et en fait, dans ce cadre-là, aujourd'hui, on est peu armé pour réussir à comprendre et surtout prédire le fonctionnement de ces mélanges. Et donc, c'est vraiment un front de recherche aujourd'hui dans nos disciplines.
Donc on a dit seulement 12% donc des surfaces occupées par les mélanges de cultures. Donc c'est peu, mais c'est beaucoup quand on sait que donc c'était 1% seulement en 2007. Finalement, est-ce que c'est pas le retour de pratiques anciennes, ces diversités ? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de revenir à quelque chose qui se faisait plus facilement avant ?
Tout à fait. En fait, l'agriculture, c'est toujours basé sur l'utilisation de la diversité. La notion de variété élite fixée sur l'ensemble du génome est très récente, à l'échelle de l'histoire évolutive des espèces cultivées. Et il faut d'ailleurs savoir que, dans mon unité, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur l'agriculture des pays du Sud. Et dans ces agricultures de type familial, on mobilise la diversité en cultivant plusieurs espèces, plusieurs variétés. Et donc, c'est effectivement un retour à des choses qu'on faisait déjà avant. Le changement aujourd'hui, c'est que c'est devenu un objet de recherche et qu'on a plein de défis à relever en tant que biologiste de l'évolution, écologue, etc., pour essayer de comprendre ces interactions entre variétés différentes ou entre espèces différentes, et puis mieux prédire ce qui se passe pour conseiller la filière.
Hélène Fréville, un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de venir dans cette émission. L'interview est déjà finie, mais on passe maintenant à la seconde partie de notre émission. Et donc, Aline, tu nous as emmenés à l'IUT de Montpellier 7, à l'atelier de technologie alimentaire. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, Lucie. Aujourd'hui, on va laver des poireaux, éplucher des pommes de terre, cuire du riz ou blanchir des pommes. Mais attention, ce n'est pas de la cuisine, c'est du génie des procédés. Et c'est Charles Cuneau qui nous fait visiter cet atelier de technologie alimentaire.
L'idée, c'est d'avoir du matériel et des compétences mises à disposition pour les étudiants, mais aussi pour tout le personnel de l'école. Voilà, parce qu'on pense que l'innovation peut venir de partout. Et donc, l'idée, c'est voilà, d'avoir plusieurs thématiques, trois labs qui permettent en fait de répondre à toutes les thématiques de l'école pour pouvoir innover et créer. Aujourd'hui, on est en fait dans deux lieux. On est à la fois dans le Bricolab, donc c'est la partie bricolage technique numérique de l'AgroFab Lab. Et à côté de nous, il y a aussi la cuisine expérimentale, le Miam Lab. Et là, on se place là où les étudiants travaillent actuellement. C'est un espace de coworking commun entre tous les labs, puisqu'on pense que justement le fait de mixer des lieux et que les gens puissent venir faire des projets divers au même endroit, ça va permettre les échanges, l'innovation et la création.
Est-ce qu'il y a aussi des enjeux de recherche ici ?
Oui, l'objectif, c'est vraiment à chaque fois d'avoir un triptyque entre l'enseignement, la recherche et les industries, parce que les industries vont nous donner des problématiques qui leur sont concrètes et donc qui permettent de nourrir les enseignements. Les enseignements, c'est notre cœur de métier dans une école. Et enfin, comme on est enseignant-chercheur, on a quand même une partie de recherche qui nous permet ici d'avoir pas mal de matériel pour prototyper et faire de l'expérimentation.
Et donc là, concrètement, tous les étudiants ou tous les chercheurs, enseignants-chercheurs peuvent les utiliser ?
Alors, c'est même plus que ça, c'est tous les personnels de l'école et écoles partenaires. Donc ça peut être aussi les techniciens, ça peut être des administratifs, parce qu'on peut s'en servir pour le professionnel, mais aussi pour le personnel. Parce que l'objectif, c'est que nous, on forme à l'utilisation des machines, on ne fait pas pour les gens. Et donc en fait, nous, l'objectif, c'est que les gens montent en compétences, quel que soit leur projet. C'est l'esprit des Fab Labs d'être collaboratif. L'idée, c'est vraiment de former les gens. On a des emplois étudiants qu'on a formés et maintenant c'est eux qui forment les nouveaux usagers, donc étudiants ou professionnels. Donc l'idée, c'est vraiment cette transmission de connaissances et de savoir. Alors il y a une partie du Bricolab dans l'espace commun, donc ce qu'on peut voir ici, c'est notamment la partie impression 3D. Trois imprimantes 3D, il y en a une qui fonctionne, qui est en train de faire un petit packaging pour un capteur, parce que nos étudiants sont en train de développer des nichoirs connectés. Donc c'est pour une demande d'un client d'une entreprise qui veut comprendre le comportement des oiseaux, et pour cela il a besoin d'avoir des informations dans les nichoirs. Et donc là, ils sont en train d'imprimer des petits boîtiers pour justement packager leur système informatique. Et donc ça, les imprimantes 3D sont très pratiques puisqu'elles nous permettent de faire du prototypage rapide pour justement les enseignements et pouvoir tester en conditions réelles.
Ils ont toute la chaîne de A à Z, de la conception à la fabrication.
C'est ça. L'idée, c'est d'avoir... Alors, ça reste que du prototypage. À chaque fois, on est sur du prototypage opérationnel qu'on peut mettre en extérieur. Mais l'idée, c'est qu'ils partent effectivement de toute la chaîne et qu'après, justement, ils testent en conditions réelles leur prototype pour continuer à l'améliorer de manière incrémentale. Et par exemple, le nichoir connecté, là, qui est en train d'être fini, on est en train de passer sur une version un peu plus poussée pour qu'elle soit installée dans le campus et que les étudiants puissent voir justement le résultat de leur semaine de travaux.
J'ai trouvé que ça, mais est-ce que vous pouvez me donner la boîte avec les mâles femelles.
Oui.
Là, c'est que des mâles-mâles, là.
C'est que des mâles-mâles. Je vais te chercher l'autre boîte.
Ouais, merci. Mon nom, c'est Naoufel Bensedik et là, je suis en première année d'ingénieur agronome. Là, on est en train de faire un projet sur un nichoir connecté, entre guillemets. Donc, c'est un nichoir qui a pour but de comptabiliser les entrées et les sorties des oiseaux pour pouvoir emmagasiner des données et pouvoir établir des articles scientifiques sur la nidification de la mésange, par exemple, des choses comme ça.
Et pour vous, avoir accès à ce Bricolab, ça, c'est intéressant ?
Oui, bien sûr, parce qu'on a beaucoup de matériel qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir en temps normal. Et puis, ça nous permet de faire des projets, de les concrétiser. Et puis, s'il y en a qui veulent faire ça dans leur temps de loisir, ça peut être aussi intéressant pour eux.
Donc là, sur une des spécificités de l'AgroFab Lab, c'est tout ce qui est le capteur et le numérique pour l'agriculture. Et donc ici, on a tout ce qu'il faut pour travailler sur de nouveaux capteurs. Donc avec une partie pour toute l'électronique, des postes à souder, des alimentations, des choses très basiques. Et une partie avec beaucoup de capteurs, alors là qui sont moins visibles, mais sur lesquels on a une très très grosse diversité pour justement répondre à plein de besoins des étudiants ou des besoins de la recherche. Et donc c'est vraiment une spécificité d'avoir ça ici.
Et sur la recherche, vous auriez des exemples à me donner de choses qui auraient été développées ici ?
Oui, alors il y en a plusieurs. Le dernier en date, c'est une caméra connectée pour la viticulture qu'on a appelée l'AgroCam. En fait, le principe est tout simple, c'est un peu comme un babyphone. Ça va être une caméra qui va prendre une photo de la vigne tous les jours ou deux photos par jour et qui va la mettre à disposition des viticulteurs sur un site web. Et comme ça, il va pouvoir suivre tous les jours l'évolution de sa vigne. Et en fait, ça va lui permettre de réduire ce qu'on appelle des tours de plaine. C'est quand il se déplace pour regarder juste si tout va bien. Et des fois, des parcelles sont très éloignées à 2 heures de route. Et en fait, ce petit dispositif permet à l'agriculteur de le voir à distance et de piloter ses venues sur les parcelles.
Et ça a été conçu ici au Bricolab ?
Oui, ça a été conçu ici au Bricolab avec l'équipe Agrotic. Donc ça a été le boîtier modélisé entièrement en 3D. Les capteurs sont ici tous de ce qu'on avait acheté au Bricolab. Et en fait, ça a été créé avec les viticulteurs, parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de mettre les utilisateurs finaux dès le début de nos recherches dans la boucle pour justement que ce qu'on crée soit concret pour eux et ait du sens.
Et maintenant, c'est commercialisé ?
Alors non, le but, ça, c'est que c'est open source. Donc, on est en train de finir les tutoriels pour la mise à disposition, pour qu'ils puissent le reproduire chez eux. Et on a un Fab Lab mobile qui s'appelle le Mobile Lab, qui est en train de finir d'être créé. Donc, on va pouvoir se déplacer en voiture avec un mini Fab Lab pour aller chez eux, pour les former et, par exemple, packager avec eux tout ce qu'il faut pour cet AgroCam.
Et des structures comme ça, c'est fréquent ? Il y en a beaucoup ?
Alors, il y en a peu, même les écoles sont en train d'en monter de plus en plus. Alors souvent, ce sont ils sont vraiment dédiés à une formation. Nous, dans l'école, on était plusieurs à vouloir créer des Fab Labs et on s'est réunis autour de la table, on était une vingtaine, et on s'est dit, plutôt qu'en faire un par spécialité, on va réfléchir à créer quelque chose de commun. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir du commun pour que les idées émergent de plusieurs endroits. C'est aussi pour ça que la cuisine et les différents lieux, on a lutté pour avoir des fenêtres, pour avoir des espaces ouverts, pour justement que les gens se voient travailler et puissent avoir de l'interaction.
Et on passe maintenant à la chronique d'Amrine. Bonjour Amrine.
Bonjour Lucie.
Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une innovation à destination des pilotes d'avion avec l'entreprise Cemaxon, une start-up nouvellement créée et installée en Occitanie qui met en place des solutions d'analyse en temps réel de l'état physique et mental pour l'aviation.
Exactement Lucie. À l'heure actuelle, les pilotes doivent gérer des opérations complexes en prenant en compte un grand nombre d'informations tout en assurant une sécurité maximale. Cemaxon développe des algorithmes qui étudient le cerveau et la voix des pilotes pour analyser les variations d'état physique, de fatigue et de stress. L'objectif est d'aider les pilotes à assurer leur sécurité et celle des vols.
Et qui est à l'origine de cette innovation ?
Alors, Cemaxon a été créé par des passionnés de neurosciences et d'aéronautique qui souhaitent comprendre les mécanismes permettant au cerveau humain de s'adapter à des situations complexes et des environnements extrêmes. La rencontre des neurosciences, de l'intelligence artificielle et de l'aéronautique est le fruit de partenariats avec des laboratoires publics, Euromove Digital Health in Motion et le laboratoire informatique d'Avignon.
Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, concrètement, qu'est-ce que Cemaxon va changer à la vie des pilotes ?
Concrètement, Cemaxon se matérialise par un petit capteur positionné sur le front des pilotes et d'une intelligence artificielle qui analyse la voix. En combinant ces mesures et en prenant en compte le contexte, cette intelligence artificielle va pouvoir informer les pilotes de leur état du moment et les alerter au plus tôt des risques.
J'imagine que la compréhension du cerveau est un vrai défi pour l'aéronautique.
En effet, le pilotage est une activité complexe où les pilotes évoluent dans trois dimensions en prenant en compte de multiples paramètres. En innovant continuellement, les évolutions techniques et les formations en ont fait une des activités les plus sûres au monde. Les innovations que portent Semaxon et ses partenaires sont dans la continuité de cette culture et contribuent à une nouvelle génération d'outils pour les pilotes en vol ou en formation.
Et quelles sont les prochaines étapes de leur développement? Est-ce qu'ils ont déjà des résultats?
Alors, Semaxon est soutenu par la région Occitanie et inscrit son innovation dans la durée. La start-up compte aujourd'hui 4 ingénieurs-chercheurs et prévoit d'en embaucher 2 nouveaux dans les prochains mois, avant de procéder à une levée de fonds. Elle souhaite étudier le transfert de ses innovations à d'autres domaines où l'expertise humaine doit s'exprimer dans un contexte complexe. Le nucléaire, le spatial, la marine ou la chirurgie par exemple.
Et la devise de cette start-up?
L'humain et sa sécurité au centre de la mission.
Merci Amrine.
Merci Lucie.
Allume la science, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.